Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, Thomas Cluzel, bonjour.
Ce bonjour
matin,
Guillaume.
Il y a comme un parfum de guerre froide.
Oui, la première histoire est à la une ce matin de toute la presse britannique, sans exception. On y apprend qu'un homme d'une soixantaine d'années, ainsi qu'une jeune femme, ont été hospitalisés dimanche dans un état critique à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Le couple a été retrouvé inconscient sur un banc dans un centre commercial. Selon un témoin interrogé par The Daily Telegraph, l'homme habillé de façon élégante avait les mains étrangement en l'air, comme s'il haussait les épaules, et le regard fixe tourné vers le ciel. À ses côtés, la jeune femme, elle, s'était affaissée sur son épaule. Aucun d'entre eux ne présentait de blessures visibles, précise The Times. Seulement voilà, hier, l'hôpital de Salisbury a tout de même conseillé au public de ne pas se rendre aux urgences de l'établissement, sauf en cas d'urgence absolue. De sorte que toute la presse, à l'instar du Guardian, en est visiblement convaincue ce matin. Le couple a été empoisonné par un puissant opiacé. Pis encore, The Sun avance pour sa part que derrière cette double tentative d'assassinat se trouverait même la main cachée du Kremlin. Pourquoi ? Parce que cet homme n'est autre que Sergueï Skripal. Alors son nom ne vous dit probablement pas grand-chose et pourtant il était l'un des plus importants agents doubles russes au service de Sa Majesté. Selon la BBC, il avait été payé 100 000 dollars pour fournir au MI6 les noms des agents russes présents sur le territoire britannique. Accusé d'espionnage au profit du Royaume-Uni, il avait été condamné en 2006 à 13 ans de prison en Russie, avant de faire l'objet en 2010 d'un vaste échange organisé dans le plus pur style de la guerre froide à l'aéroport de Vienne, où deux avions russes et américains s'étaient rangés côte à côte afin de faciliter le transfert de 4 agents russes contre 10 espions du Kremlin expulsés par Washington. Et c'est ainsi que depuis, Sergueï Skripal avait trouvé refuge donc en Grande-Bretagne, où il vivait tranquillement, raconte The Guardian, comprenait sans faire parler de lui. Du moins, jusqu'à ce que dimanche dernier, des passants le remarquent inconscient sur un banc dans un centre commercial. Mais selon The Daily Mail, ces derniers temps, il avait prévenu que sa vie était en danger et il n'en fallait pas davantage pour que son confrère The Independent fasse lui aussitôt remarquer que toute cette affaire ressemble de manière troublante à celle d'un certain Litvinenko, du nom de cet ex-agent des services secrets russes, opposant à Vladimir Poutine et victime d'une mort atroce en 2006 après avoir bu une tasse de thé empoisonnée dans un hôtel de la capitale britannique.
Et pendant ce temps, Thomas, voilà qu'un autre ex-agent du renseignement britannique fait parler de lui dans la presse américaine.
Oui, son nom, Christopher Steele. Alors, hasard de l'actualité, il se trouve qu'il est lui-même lié à l'affaire Litvinenko que j'évoquais à l'instant, puisque c'est lui qui avait été chargé de l'enquête pour le MI6. Enquête qui avait conclu que ce meurtre avait été commandité par les services secrets russes et probablement approuvé par Vladimir Poutine lui-même. Mais si le nom de Steele ressurgit dans la presse outre-Atlantique, c'est parce que c'est lui qui est à l'origine du rapport confidentiel laissant entendre que la Russie a interféré dans l'élection présidentielle américaine. Et The New Yorker, en particulier, de s'interroger ce mois-ci dans un long portrait détaillé qui est cet homme derrière le dossier Trump. Notamment de raconter comment Christopher Steele est tombé quasi par hasard sur cette affaire. Deux de ses premières enquêtes en tant qu'espion à la retraite concernaient en effet des réseaux criminels internationaux dont les dirigeants, par coïncidence, étaient tous basés à la Trump Tower de New York. Le premier client de Steele était la Fédération anglaise de football, qui espérait accueillir la Coupe du Monde en 2018, mais soupçonnait des transactions douteuses de la part de la FIFA. Convaincu que la corruption au sein de l'instance dirigeante de football était mondiale, Steele avait alors estimé que la seule organisation capable de mener une enquête d'une telle envergure était le FBI, d'où sa première collaboration en 2011 avec l'agence américaine. Le ministère de la Justice avait alors inculpé 14 personnes, dont un haut fonctionnaire de la FIFA, lequel possédait un appartement à 18 000 dollars par mois dans la Trump Tower. Quelques années plus tard, le FBI l'avait cette fois-ci directement engagé pour l'aider à démanteler un réseau international de jeux de hasard et de blanchiment d'argent, prétendument dirigé par un Russe et dont le syndicat était, lui aussi, basé dans un appartement de la Trump Tower. Comme il le dira lui-même à ses amis, c'était comme si toutes les routes criminelles me conduisaient systématiquement à la Trump Tower. Et c'est ainsi qu'une nouvelle fois au printemps 2016, Steele a reçu cette fois-ci un appel d'un ancien journaliste du Wall Street Journal lui demandant de l'aider à suivre des pistes sur les liens de Trump avec la Russie. Le financement du projet provenait à l'origine d'une organisation financée par un investisseur new-yorkais du nom de Paul Singer, un républicain qui n'aimait pas Trump, mais lorsqu'il est devenu clair que Trump allait gagner la primaire républicaine, Singer a décidé de jeter l'éponge et c'est à partir de ce moment-là seulement que l'avocat général de la campagne de Clinton a décidé de subventionner l'enquête inachevée, une histoire de financement bipartite qui contredit donc l'argument selon l'enquête, selon lequel cette enquête a été corrompue par son parrainage.
Et décidément, Thomas, les portraits impliquant la sphère russe se multiplient ce matin dans la presse.
Oui, quand The Daily Beast publie un long entretien exclusif avec l'ex-prisonnier Rodorkovsky, lequel s'épanche largement non seulement sur Vladimir Poutine, la mafia russe et les meurtres politiques, son confrère Le Temps retranscrit lui une entrevue avec un autre opposant Vladimir Kara-Murza, ayant survécu à deux empoisonnements et qui, à son tour, dénonce sans concession l'hypocrisie du système Poutine. Enfin, il y a des jours comme cela, en Allemagne, le journal de Düsseldorf, l'Express, tente de percer le mystère autour d'une attaque à l'acide menée contre le directeur financier d'Inogi, une filiale du groupe énergétique RWE. Bernard Günther, 51 ans, sortait dimanche matin de la boulangerie, une fournée de petits pains sous le bras, lorsque deux hommes l'ont aspergé d'acide sulfurique. L'homme a été traité dans une clinique spécialisée. De son côté, le quotidien Bild rapporte que le renseignement intérieur s'est saisi du dossier pour déterminer si le motif pouvait être politique, car si la société Inogi est aujourd'hui spécialisée dans les énergies renouvelables, en revanche, sa maison mère RWE, propriétaire du plus gros parc de centrales à charbon d'Europe, est devenue la bête noire des militants écologistes.
Merci Thomas Cluzel.